17h40, Raphaël, trois bons sujets. On essaie de tous les faire. Commençons par le FBI qui a déjoué une tentative de l'Iran de kidnapper, j'ose à peine imaginer ce qui aurait suivi, une journaliste en sol américain.
Quelle histoire! Quelle histoire, Marc-Claude! Une journaliste américaine d'origine iranienne. Il faut comprendre que c'est plus qu'une simple journaliste, c'est aussi une activiste. Elle milite contre le régime iranien depuis un bon bout de temps.
Et contre le voile, hein?
Et contre le voile, entre autres. Pas juste ça, mais entre autres ça. Et elle a une portée, de ce qu'on en comprend, là, quand même assez considérable sur les médias sociaux. Autrement dit, elle dérange pas mal de monde à Téhéran au sein de ce régime-là. Et donc, le FBI a déposé des chefs d'accusation contre 4 agents iraniens qui auraient comploté pour l'enlever, la ramener en Iran, sans préciser ce qu'on lui aurait réservé comme ça, mais je pense qu'on va, d'accord sur le fait que...
J'aime mieux pas y penser.
Ben c'est ça, ça n'aurait pas été très joyeux. Et l'autre chose aussi qui mérite d'être dite, c'est que la principale intéressée, la journaliste en question, elle a commencé à donner des entrevues aujourd'hui. Puis elle a tout confirmé, elle a dit non seulement c'est vrai, mais les autorités américaines m'ont moi-même montré les photos qui avaient été prises de moi à mon insu, dans ma vie privée, avec mon mari, avec mes beaux-enfants. Tout ça, Marc-Claude, en sol américain pendant des mois. Donc, comment est-ce que ça s'est fait? Ben, c'est que t'as eu ces agents iraniens-là qui ont engagé des détectives américains pour l'espionner activement, donc encore une fois sur des mois, et on prévoyait éventuellement l'intercepter quelque part et la ramener en Iran. Fait que ça, c'est hallucinant. Et l'autre chose, c'est que ça, c'est une histoire qui touche une personne. Mais ce qu'on a aussi dévoilé, c'est que le réseau en question, là, qui est impliqué dans cette affaire-là, voulait opérer aussi ailleurs, incluant au Canada, où on avait plusieurs cibles depuis à peu près un an de gens qui étaient aussi des critiques du régime iranien qu'on voulait kidnapper et ramener en Iran.
Sauf qu'ici, on n'a pas les noms, hein?
Non, exact. Ouais. De tout ce que j'en sais personnellement, on n'a pas les noms.
Bon. C'est assez particulier. Est-ce qu'on passe tout de suite au deuxième sujet, ouais, Raphaël?
Oui, avec peut-être juste un ajout très rapide, parce que c'est évidemment rocambolesque comme histoire en soi, mais le contexte est aussi très particulier, parce que depuis un petit bout de temps, l'administration Biden, la nouvelle administration Biden, est en train d'évaluer la possibilité d'essayer de retourner au sein de l'accord nucléaire iranien.
Oui.
Fait qu'on s'entend que ça vient pas tout à fait aider les tensions entre les deux pays. Fait qu'il y a ça qui mérite d'être dit. C'est incroyable comme histoire, mais c'est que ça peut causer des répercussions géopolitiques qui sont beaucoup plus larges que le sort d'une simple journaliste.
Oui, une entente que Trump avait laissée tomber, il faut le dire, c'est important. L'ex-président Bush, George W., de son prénom, c'est rare qu'il fait la belle-mère, mais là, il a décidé de jouer la belle-mère sur le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan.
Et c'est exactement pour ça que je veux t'en parler, parce que Bush, avant même qu'il quitte la Maison-Blanche en 2009, avait dit à répétition qu'il se donnait comme mission de ne pas critiquer ses éventuels successeurs, parce que lui-même s'était fait faire ça par certains de ses prédécesseurs, notamment Jimmy Carter, pour ne pas le nommer, et il n'avait vraiment pas apprécié. Donc, il s'était dit, moi, quand je vais quitter, je ne vais pas critiquer qui que ce soit, ou en tout cas, le moins possible. Et là, il sort, si on veut, de son espèce de devoir ou de droit de réserve pour critiquer et vraiment vertement la décision de retirer les troupes américaines de l'Afghanistan. Et de façon assez intéressante, il a parlé de ça dans une entrevue à un média allemand qui essaie de faire une espèce de bilan, si on veut, de la chancelière Angela Merkel. On sait, elle va quitter le pouvoir. Et donc, Bush était président quand elle est arrivée au pouvoir. Donc, on parlait vraiment, je te dirais, dans le cœur de cette entrevue-là, de la relation entre les deux. Mais quand il était question éventuellement de l'Afghanistan, ce qu'il a dit, c'est écoutez, et il a même cité le cas personnel de Mme Merkel en disant, écoutez, vous avez une chancelière qui a grandi dans un régime autoritaire. Elle a grandi, Mme Merkel, en Allemagne de l'Est, qui était une dictature, évidemment. Et là, le sort, pas simplement de tous les Afghans, mais des femmes et des filles afghanes, une fois que les Américains vont se retirer, risque d'être carrément catastrophique. Et là, l'expression exacte qu'il a citée, c'est que les conséquences vont être incroyablement mauvaise. Fait que s'il sort de la sorte, c'est que, crois-moi, ça le dérange pas à peu près.
Ben, quand on sait de quoi les talibans sont capables, je pense qu'il y a de quoi être inquiet.
Ben oui, non seulement ça, non seulement ce dont les talibans sont capables, mais le fait qu'ils semblent déjà en quasi-contrôle d'une bonne partie, en fait, en contrôle carrément, je devrais dire, là, d'une bonne partie du pays, avant même que le retrait américain se soit complété. Fait que, tu sais, mais écoute, on va s'en reparler parce que, évidemment, c'est un gros dossier qui n'est pas terminé, mais ça mérite toujours d'être dit. C'est un dossier, Marc-Claude, qui est impossible parce que même si cette considération-là, elle est parfaitement légitime, ces craintes-là sont parfaitement légitimes, c'est quoi l'alternative? Rester là à jamais? Je veux dire, ça fait 20 ans qu'ils sont là, les Américains. Fait que c'est, y a pas de décision ou d'option parfaite dans ce bordel-là, pardonne-moi l'expression, qui est l'Afghanistan.
Quand je pense que dans les années 80, 70 plutôt, je te dirais même, l'Afghanistan était un des pays là, que beaucoup, beaucoup de Québécois visitaient quand ils partaient en Europe, puis faisaient le grand tour, là, le long voyage, sac à dos. C'était à l'époque parfaitement sécuritaire. C'est tellement plus ce que c'était. Il nous reste un petit 2 minutes pour parler...
Parlant de tourisme, en fait,
oui, de la pression. Les États-Unis font pression. Ils disent même que ça se peut qu'ils ouvrent la frontière avec ou sans l'accord du Canada. Là.
Exact. Écoute, je pense que c'est immanquable comme sujet aujourd'hui, surtout ici, là, parce que tu as eu Tourisme Montréal, Vanacky Leboeuf t'en parlait là, au début de l'heure, oui. Tu as eu la Chambre de commerce de Montréal qui sont sortis de façon jointe, et tu as eu M. Trudeau qui a réagi en disant, en fait, en répétant sa cassette, là, disons-le franchement, depuis des mois, là, on ne veut pas agir trop vite, sauf que là, trop vite, là, ça dépend à qui tu sors cette expression-là, parce que ça va quand même faire un an et demi que c'est la plus importante frontière du monde qui est fermée. Puis à ce stade-ci, Marc-Claude, il y a un acteur qui la garde fermée, puis c'est son gouvernement, c'est le gouvernement de Justin Trudeau, parce que aux États-Unis, pour toutes les divisions qu'on a pu avoir, les divisions politiques pendant la pandémie, là, il y a un consensus qui est très, très large. Les démocrates, les républicains, à tous les paliers de gouvernement, ils veulent que la frontière rouvre. La population américaine le veut, les communautés frontalières le veulent. Et là, c'est rendu que, si on se fie au dernier sondage qui a été publié par le Globe and Mail il y a à peine quelques jours, c'est même la population canadienne, de façon majoritaire, qui veut d'ici l'automne une rouverture de la frontière. Fait que, écoute, la date butoir, la prochaine date butoir, c'est le 21 juillet, on le sait.
Oui, ça, c'est demain matin.
Pratiquement, c'est dans une semaine jour pour jour.
Moins d'une semaine,
effectivement.
Dans six jours.
On s'attend à ce qu'il y ait une décision qui soit rendue d'ici là, qui soit annoncée d'ici là. Crois-moi que si M. Trudeau annonce ce que je pense on se doute qu'il annonce, c'est-à-dire qu'on reconduit la fermeture de la frontière, tu vas avoir de la grogne qui va aller seulement en s'amplifiant, ça c'est sûr et certain.
Clair. Puis des États-Unis, puis là, tu as vu la France aussi qui dit, écoutez, oui. Nous, on accepte votre monde, ça serait le fun qu'on ait la réciproque.
Mais c'est ça, puis c'est parce que d'un point de vue américain, il faut que tu comprennes, on va se laisser là-dessus, Marc-Claude, mais ça mérite d'être ajouté. La perspective des Américains, imagine ce qu'eux voient. Ils peuvent aller voyager à peu près n'importe où, incluant partout en Europe, et ils regardent du côté nord, leur voisin principal, la nation qui est censée être leur plus grand ami, leur plus grand partenaire commercial. Et c'est là que les restrictions sont probablement les plus sévères, avec à peu près aucun assouplissement depuis presque un an et demi. Fait que beaucoup de frustration qui risque d'aller encore une fois en s'amplifiant si le gouvernement canadien reconduit cette fermeture-là.
Ben écoute, 3 sujets dont on va reparler.
Good! Quand
merci,
tu veux.
Merci beaucoup, Raphaël. Ben, je veux demain.
Tiens. On va faire ça demain. Ciao.
Salut, ciao. Bonne soirée. On s'arrête le temps d'une autre pause et tout de suite au retour, Jérémy Rainville sera avec nous pour nous parler d'amateurs de sport.